France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Naissance, puis la bouche va toujours. C'était là les deux premiers épisodes de l'histoire des restaurants, ou du restaurant, dans De bouche à oreille. À suivre, comme on dit, entre la cuisine et la salle, tout d'abord les grands boulevards et les bouillons, les bistrots, le temple de la ripaille, le boulevard des Italiens devient le centre du monde. Puis René Elkaïm Bollinger soulèvera pour vous le couvercle de la marmite perpétuelle. Bon appétit!
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire.
Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table !
Aujourd'hui, histoire du restaurant, troisième temps, les grands boulevards.
Le boulevard des Italiens, voilà le centre du monde, la fin de tout. Le but suprême de tant d'efforts, le dernier mot de tant d'ambitions. Poindre, briller sur l'asphalte de ce trottoir, y conquérir sa place où l'on étouffera, y devenir une notoriété, un nom, un chiffre, quelque chose. Louis Hainaut, Paris et les Parisiens.
Boulevard. On disait même à l'époque le boulevard avec un B majuscule. Au cours du 19e siècle, les temples de la ripaille se sont déplacés dans Paris. Le Palais Royal a encore de belles années à vivre, mais maintenant ce sont les boulevards qu'il faut arpenter en se montrant, en soupant, en guignant les femmes. On y voit tournoyer les personnages de Balzac, de Dumas et de Barbey d'Aurevilly. Barbey. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les mémorandas de l'auteur des Diaboliques pour évaluer l'importance capitale et quotidienne de ces dîners. Au café de Paris, où les vastes salons sont hantés, dit-il, par le génie de la solitude, ou au café anglais, véritable Sodome. Dans son journal, Barbey d'Aurevilly évoque ses allées-venues du Palais Royal au boulevard. On y boit du kermès, des feuilles de rose, du nectar d'odalisque. On sirote des limonades et des punches au café Véron, du madère chez Corazza. On va croquer des glaces chez Tortoni, où se presse la foule des élégants, les gants jaunes, dandy, furieux, Lyon et Lyon. Mais pourquoi Barbey d'Aurevilly déclare-t-il qu'il ne peut souffrir de dîner en ville avec des femmes ? Au sommaire de bouche à oreille, juste un mot, Lyon. Entretien avec François-Régis Goudry, auteur de Mémoire du restaurant. Comment le goûtez-vous, le café riche ? Guy de Maupassant. Brève et micro-ondes. Juste un mot. Lyon.
La Lyon, c'était le féminin de Lyon. Alors, Lyon était un peu un synonyme de dandy à l'époque, alors que les Lyonnes, on attribuait ce nom à des femmes qui étaient en gros prêtes à tout pour mettre le grappin sur quelqu'un qui avait de la fortune, qui profitait en général, qui se faisait inviter en cabinet particulier, qui profitait en général des états de griserie des uns et des autres dans les salons, dans le salon du Grand 16, par exemple. Qui est un grand salon à l'étage du Café Anglais, qui était donc un de ces restaurants du boulevard des Italiens. Et ce grand 16 était une espèce de... D'ailleurs, il y a des gravures de l'époque qui décrivent un état de décadence assez avancé, hein, avec des gens qui trébuchent sur les banquettes, des bouteilles de champagne qui se renversent, des hommes presque déshabillés, hein, parfois au bord de l'acte sexuel. Alors je ne sais pas si les gravures étaient emphatiques à ce point, mais il y avait quand même un état de décadence assez avancé. Et les courtisanes, les lionnes, profitaient justement de ces moments un peu de laisser-aller pour essayer de se faire un destin.
faut être bien riche pour dîner chez Hardy, et bien hardi pour dîner chez Riche. Cambacérès.
On allait au Café Riche pour son potage aux moules et sa fameuse sauce Riche. Le Café Riche se trouvait au coin de la rue Pelletier du boulevard des Italiens. Une gravure montre les boulevards le soir des élections en 1885. Une foule de haute forme et de robes à tournure. On lit le soir avec voracité. François-Régis Gaudry.
Les grands boulevards, c'est toute cette série de boulevards en enfilade, en fait, qui commençait boulevard du Temple. Vous aviez et qui allège en fait jusqu'à au début du XXe siècle jusqu'à la Madeleine, donc boulevard des Italiens et autres. On les a appelés les grands boulevards, qui est devenu véritablement le lieu par excellence de la Restauration, de cette effervescence qu'on avait connue déjà à la fin du XVIIIe siècle au Palais Royal. Et on a assisté à un phénomène un peu curieux précisément à la fin dans la première moitié du XIXe. Un phénomène de migration gastronomique, c'est-à-dire que, encore une fois, le centre névralgique du restaurant, de la restauration, c'était vraiment le Palais Royal au cœur de Paris. Et peu à peu, on a assisté à un déplacement du centre de gravité de cette affaire-là, précisément vers le nord et l'est de Paris. Il y a plusieurs explications à cette migration. D'abord par le fait que, essentiellement par le fait que le Palais Royal a connu des événements pas très heureux qui ont contribué à son déclin progressif. Il y a d'abord un premier événement qui a un peu sonné l'alerte en 1828, qui a été un vaste incendie qui a embrasé les trois galeries qui à l'époque étaient construites en bois. Et alors là, on s'est retrouvé avec beaucoup de restaurants très endommagés, et comme les travaux ont été longs, beaucoup de gens déjà, de clientèle, sont partis dans d'autres quartiers. Et un autre événement, c'était surtout la fermeture des maisons de jeu. Les maisons de jeu étaient quand même, pour le coup, une des raisons d'être économiques du Palais Royal. Et à partir du moment où un décret a interdit la fréquentation des maisons de jeu et a ordonné la fermeture des maisons de jeu, bah forcément les restaurants qui étaient à côté ont pâti de cette interdiction. Et du coup, de plus en plus de restaurateurs qui ont voulu s'installer à leur compte on jugeait bon d'aller s'installer ailleurs. Alors il y avait déjà des restaurants qui existaient sur le chemin vers le nord, notamment du côté des Halles et du côté du boulevard du Temple. Mais c'est vrai que c'est dans cet axe-là, dans le nord et l'est de Paris, que les restaurants ont commencé à s'installer. Et puis les théâtres étaient là, l'opéra était là, des théâtres se sont installés. Théâtre des Italiens, Vaudeville, Théâtre des Italiens qui d'ailleurs donnera son nom au fameux boulevard des Italiens, qui est certainement dans les grands boulevards, le boulevard où se concentrait le plus de restaurants. Et d'ailleurs à l'époque, il était tellement connu qu'on se contentait de l'appeler le boulevard, avec un B majuscule, on ne disait même pas le boulevard des Italiens.
Entrons dans la rue Mandar, nous y trouverons le rocher de Cancale et le parc d'Étretat. C'est là qu'on mange à toute heure les meilleures huîtres de Paris. Il s'y en fait une consommation si prodigieuse que bientôt leurs seules écailles, s'élevant au niveau des plus hautes maisons de cette rue, pourront devenir elles-mêmes de véritables rochers. Ce n'est point par des plats fins et minutieusement recherchés que le rocher de Cancale a rendu son restaurant si recommandable. Quoiqu'à en juger par certains pâtés chauds aux cailles et au vin de Malaga, digne de la table des dieux, M. Baleine soit très en état de lutter avec les Robert et les Véry. Mais on est sûr d'y manger le meilleur poisson de mer et la meilleure volaille de Paris. Grimaud de la Reynière.
Le rocher de Cancale, au départ, c'était tenu par quelqu'un qui porte bien son nom et qui s'appelle Alexandre Baleine. Il porte bien son nom pour la simple et bonne raison, c'est qu'il était marchand d'écailles, comme on disait, marchand d'huîtres. À l'époque, au marché des Halles et le marché de la Marée remontaient jusqu'à ce niveau de la rue Montorgueil, c'est-à-dire, pour les Parisiens qui sont dans le quartier, à l'angle avec la rue Mandar. Donc c'est quand même pas tout près des Halles, il faut remonter un petit peu. Et là, à cette époque, se situait le marché de la marée. Et ce fameux Alexis Baleine, a donc fondé une espèce de restaurant qui était au départ plutôt quelque chose d'un peu modeste, en 1805, à l'angle avec la rue Mandar. Et il a doublé ce cabaret d'une boutique de coquillages. C'était vraiment en quelques années qu'il a gagné ses lettres de noblesse, ce cuisinier, et qu'il est véritablement devenu un cuisinier de poissons, un cuisinier de la mer. Il faisait venir par colis spéciaux en direct de Bretagne et de Normandie ses huîtres, ses turbots, ses soles. Et du coup, beaucoup de nantis parisiens, de princes russes, de barons allemands, de diplomates de tous les pays y accourent. Grimaud de la Reynière, qui ne manque jamais un lieu un peu aristocratique, effectivement, est d'ailleurs dans son almanach un des principaux promoteurs du rocher de Cancale.
Et 36 préparations, dit-il.
Et 36 préparations, oui. Il y a des. Le rocher de Cancale a toute une histoire, a commencé par ce fameux dîner de 1809. Donné par l'archichancelier Cambacérès, qui a quand même demandé à Alexis Baleine un menu pour ses amis de 24 couverts, avec un menu déclinant pas moins de 36 préparations, parmi lesquelles un potage à la reine au lait d'amande et aux biscottes, des poulets de grains au beurre d'écrevisse, un jambon glacé et un soufflé à la vanille. Voilà, c'est comme ça qu'avec ces événements qu'Alexis Baleine a fait sa réputation. C'est aussi au rocher de Cancale qu'a lieu une anecdote assez drôle d'Alfred de Musset qui a emmené à dîner une fille de petite vertu qui était une espèce d'actrice de théâtre de second rang dont le nom de scène était Céleste Mogador et qui la pria d'aller dîner au rocher de Cancale. L'écrivain a commencé à adresser quelques paroles désobligeantes à son invité. Il commanda une absinthe, il commanda de l'eau de Seltz. Et il arrosa sa convive de la tête aux pieds, avec le siphon d'eau de Seltz, la ridiculisant en public. Alors le maître d'hôtel arrive et lui demande qu'est-ce qui vous a pris. Et il lui a dit très exactement, très calme, le poète se contenta de donner l'adresse de la maison et le nom de la pensionnaire. Naturellement, le défenseur improvisé s'en tint là. Ce qui voulait dire que c'était une fille dont les origines étaient douteuses. Et c'était finalement une façon de l'humilier.
Nous ne dirons rien des cabinets particuliers, attendu que notre sujet nous impose de rester strictement sur le terrain de la cuisine. Le cabinet particulier incline plutôt vers la galanterie que vers la gastronomie. On y consomme une foule de choses à la fois affreuses et folles, stupides et charmantes, comme l'amour. Beaucoup de choses au vinaigre, des beignets de pêche, des concombres à l'huile, des compotes d'ananas. Qu'importe ensuite que les truffes aient déjà perdu leur parfum, que les vins n'aient pas toute l'authenticité désirable, pourvu qu'il y ait un cœur brûlant à côté d'un autre cœur et une bouteille de mouette dans la glace, on ne s'arrête guère aux détails. Paris Restaurant.
Que ce soit les revues de l'époque, Balzac, Maupassant avec ses polissonneries distinguées, on retrouve toute une société gastronomique et littéraire au cadran bleu, comme au rocher de Cancale. François-Régis Goudry.
Il y a d'ailleurs un dîner célèbre qui s'est tenu là-bas, c'était le Caveau, qui est à la fois une société gastronomique et littéraire et qui était fréquentée par tous les écrivains du 19e siècle du libertinage. Le rocher de Cancale, pour ceux qui ont repéré rue de Montorgueil une devanture un peu cramoisie, dont je mets d'ailleurs la photo dans mon livre parce qu'il y a quand même encore des lambris assez intéressants. Il ne s'agit pas en fait du vrai rocher de Cancale.
C'est le deuxième
rocher de Cancale qui a été ouvert en 1820, qui a été ouvert juste en face en fait du rocher de Cancale à l'origine. Ce rocher de Cancale-là, c'est-à-dire le faux, qui est un comble, c'est un comble parce que c'est paradoxalement celui qui a finalement survécu aux tempêtes, avait été ouvert, là encore une fois, par opportunisme, par un certain Pécune. C'est comme l'affaire de Véfour avec quelqu'un qui a cherché à usurper le nom du Véfour. Là, il s'agissait de la même chose. Et finalement, l'imitation a survécu la copie a survécu au modèle original.
Il y a des personnages d'Eugène Sue, de Balzac qui sont situés là.
Qui sont situés, absolument. Il y a le Balzac qui y a fait défiler, notamment dans La Cousine Bête, un certain nombre de ses héros. Eugène Sue et Théophile Gautier y avaient leurs habitudes.
On a l'impression que les personnes attablées là-haut, consommant les sols et les fameux canards, voient à leurs pieds avec une satisfaction diabolique comme des gargouilles l'océan gris des toits sous lesquels vivotent les affamés. En de telles époques, manger, manger bien et beaucoup, donne un sentiment de puissance. Ernst Jünger, journal, le 4 juillet 1942.
Et il y avait le cadran bleu. Alors, parlez-moi du cadran bleu, parce que il a une réputation assez dure, assez sévère, un peu même tragique.
Oui.
Il y avait l'assassin à la fourchette.
Oui, l'assassin à la fourchette, le cadran bleu est connu, c'est vrai, aussi pour cet assassin. Il faut le situer, le cadran bleu. On en voit d'ailleurs quelques restes. J'y suis allé, mais c'est maintenant transformé en immeuble, c'est plus du tout un restaurant. C'était un lieu qui se situait à l'angle entre la rue Charlot et le boulevard du Temple, entre la porte Saint-Antoine et la porte Saint-Martin. Et le boulevard du Temple était déjà à la Révolution la promenade des Parisiens. Et il y avait comme ça une guinguette qui était une guinguette à bière jusqu'à la Révolution, et qui devient ensuite un lieu de réputation gastronomique dès le début du 19e. Donc la guinguette d'un thé de 1773. Mais le lieu lui-même est devenu restaurant au moment où, à la fin du 18e. Et c'est précisément dans les salons de ce restaurant qu'est mort le fameux assassin à la fourchette. Alors, l'assassin à la fourchette, c'est le surnom qu'on a donné au père Gourier. Il y avait toute une légende urbaine autour de ce restaurateur. Les gazettes de l'époque s'en faisaient l'écho. Tout le monde s'inquiétait. Les dames, les hommes qui allaient au restaurant avaient peur de tomber sur ce drôle de personnage. C'était en fait un riche propriétaire foncier, qui était donc rentier, qui avait les moyens de se payer les plus belles tables de Paris, le café riche, le café anglais, et notamment le cadran bleu. Et il était assez sadique parce qu'il avait pour habitude d'inviter à l'année, à des tables prestigieuses, des proches, des familiers, qu'il faisait manger de façon excessive jusqu'à ce que mort s'en suive, en fait. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'invité n'en puisse plus et finisse par succomber. Alors, il les avait à l'usure, hein, puisque ça durait en général des mois.
Plusieurs mois, plusieurs années.
C'est-à-dire que, il allait au restaurant, il emmenait ses convives, il commandait. Lui, étant doté d'un appétit absolument surdimensionné, par politesse, il arrivait en général, il tombait visiblement sur des gens faibles, qui le suivait par mimétisme, qui mangeait comme lui, qui se retrouvait avec des indigestions, et qui, soit de façon subite, soit par usure, finissait par mourir d'indigestion, tellement ils ingurgitaient de plats. C'était par dizaines que le père Gourier commandait au maître d'hôtel des préparations.
Mais Ameline a échappé à ça.
Et Ameline, justement, a échappé à ça. La légende raconte que cette fameuse Ameline, qui a donc été la dernière proie de l'assassin à la fourchette, aurait été informé par le maître d'hôtel du cadran bleu, qui lui a dit « Faites attention, on a repéré ce personnage. » Et elle s'entraînait d'abord à manger un peu moins, et surtout, elle se tapissait l'estomac d'huile de ricin avant d'être à table avec l'assassin, ce qui finalement lui permettait de résister aux excès de nourriture. Si bien que le père Gourier ne parvint pas à venir au bout de cette Ameline au bout de 2 ans. Et c'est finalement tel l'arroseur arrosé...
Il s'est goinfré.
L'assassin à la fourchette qui s'est goinfré lui-même. Et il y a des, alors pour le coup, des articles dans les gazettes de l'époque assez truculents qui racontent que le père Gourier s'est goinfré lui-même, pour donner le bon exemple, jusqu'à ce qu'il s'étouffe en avalant, dans les salons cossus du cadran bleu, sa 14e tranche d'aloyau.
Ça paraît pas possible, ça.
On a beaucoup de mal à le croire. En même temps, je pense qu'on mangeait vraiment plus à l'époque. Quand on voit les repas qui étaient donnés, alors on pouvait penser que les plats étaient servis dans des portions moindres, mais quand on voit le défilé, le déroulé des plats...
Tout le monde ne mangeait pas tout quand même.
Tout le monde ne mangeait pas tout, mais il y avait quand même un appétit surdimensionné. On avait des gabarits aussi assez différents. Hein. Avoir une redingote bien remplie à l'époque était beaucoup plus toléré qu'aujourd'hui.
Indigestion. Les symptômes d'une indigestion sont des pesanteurs et douleurs dans l'estomac, accompagnés de hauts de cœur et d'un violent mal de tête. Il faut alors exciter l'évacuation par des vomissements en buvant d'abord abondamment de l'eau tiède, puis des infusions de tilleul ou de thé légèrement sucré. Il faut en même temps prendre des lavements d'eau de son, dans laquelle on mettra 2 cuillerées de sel. Il faut surtout éviter tous les spiritueux. Ces boissons, loin d'être utiles, sont dans ce cas très dangereuses. La diète et le repos déterminent ensuite la guérison. Légende d'une gravure de 1830.
Et alors, il y avait quelqu'un qui a pris les casseroles en main, il me semble. C'était où ? C'était Alexandre Dumas à la Maison Dorée.
Oui, Alexandre Dumas à la Maison Dorée. Il y a d'ailleurs une gravure qui montre Alexandre Dumas.
On le voit avec une casserole.
On le voit avec ses casseroles. Alors, je sais plus. Si, je crois que ça se situe d'ailleurs à la Maison Dorée. La Maison Dorée, en fait, c'était avant le café Hardy. Il est devenu la Maison Dorée en 1841 quand un nouveau propriétaire qui s'appelait Verdier a pris les rênes. Et il se trouve qu'Alexandre Dumas avait son journal qui s'appelait Le Mousquetaire à l'époque, juste au 1 rue Lafitte, c'est-à-dire presque au-dessus du restaurant. Et il venait donc visiter Casimir qui était le chef cuisinier de ce restaurant. Il confectionnait des plats avec son aide. Casimir, là encore, avait beaucoup de savoir-faire et une très belle réputation sur les boulevards. Et en général, on dit qu'Alexandre Dumas, effectivement, s'attribuait la paternité de certains plats, qui se retrouvaient d'ailleurs à la carte. Mais Alexandre Dumas savait cuisiner. En même temps, il se servait beaucoup du savoir-faire de Casimir pour pratiquer son art. La Maison d'Or, d'ailleurs, qui s'appelait donc cette Maison Dorée, a été juste avant le Café Hardy. Et le Café Hardy, qui était donc situé à l'angle entre le boulevard des Italiens et la rue Lafitte. Et le Café Hardy s'est fait remarquer pour avoir été l'un des établissements pionniers d'un mode d'alimentation qui avait cours dans la première partie du 19e siècle, qui s'appelait le déjeuner à la fourchette. Alors on l'a retrouvé aussi également au Palais Royal. Mais le déjeuner à la fourchette, c'était une mode dont le principe était d'avoir la possibilité de manger entre 10h et 15h, alors pas de 10h à 15h, hein, mais de manger entre 10h à 15h, donc avec une vraie flexibilité dans les horaires, de façon un peu rapide, alors qu'on passait quand même un temps assez important à la table des restaurants à l'époque. Hein, en moyenne, on devait y passer au moins 3 heures. Et là, on avait la possibilité de manger en moins d'une heure une pièce de viande qu'un maître d'hôtel tenait en général sous cloche. C'était soit des rognons, des côtelettes, des papillotes ou des andouilles, qu'un maître d'hôtel venait piquer avec une grande fourchette et venait poser sur un brasier, sur des braises incandescentes. Ça grillait, il y avait peu d'apprêt, il y avait juste un peu de sauce, et on pouvait manger comme ça assez rapidement. Et c'était notamment une formule qui a été inventée à l'attention des spéculateurs. On les appelait les vautours de l'agiotage. C'était les gens qui travaillaient à la bourse au Palais Brongniart et qui, pour le coup, étaient déjà un peu les hommes d'affaires et qui avaient peut-être un peu moins de temps que les autres pour dîner, hein, et manger donc rapidement grâce à cette formule du déjeuner à la fourchette. Et le Café Hardy a été très connu justement pour avoir été certainement l'établissement le plus célèbre.
Oui, l'éducation sentimentale. Il y a le personnage de Frédéric Moreau, hein, qui va à la Maison Dorée.
Qui va à la Maison Dorée, et tout le Paris ensuite du Second Empire d'ailleurs va fréquenter la Maison Dorée, de Labiche au Goncourt, en passant par Gérard de Nerval, le futur Édouard VII, Barbey de Révilly, et beaucoup d'autres hommes de lettres ou hommes politiques.
Le boulevard ne commence à remuer qu'à midi. C'est alors qu'arrivent les dandys. Ils entrent à Tortoni par la porte de derrière, attendu que le perron est envahi par les barbares, c'est-à-dire les gens de la bourse. Le monde dandy, rasé et coiffé, déjeune jusqu'à 2h à grand bruit, puis s'envole en bottes vernies. À 11h30 du soir, les spectacles se vident. On se casse le cou chez Tortoni pour prendre une glace avant de s'aller coucher. Il s'en avale 1000 dans une soirée d'été. Alfred de Musset, 1840.
On allait aussi manger des glaces chez Tortoni.
Oui, on allait manger des glaces chez Tortoni. Ce qui m'émeut beaucoup dans cette histoire de Tortoni, c'est que c'est un des établissements dont qu'on peut encore bien imaginer en se baladant du côté du boulevard des Italiens. Parce que si vous avez la curiosité d'aller vous promener presque à l'angle entre la rue Lafitte et la rue Taitbout, et vous avez le boulevard des Italiens avec la façade d'un bel immeuble qui a été racheté par BNP Paribas. Comme d'ailleurs beaucoup d'établissements. Prenez le Crédit Lyonnais qui avait le Café Elder d'ailleurs. Le Crédit Lyonnais abritait aussi un restaurant. Et la façade de la BNP Paribas est une très belle façade qui abritait justement ce fameux Tortoni. Un restaurant là encore assez prestigieux. Fréquenté par des dandies, avec un menu à deux vitesses, puisque vous aviez un restaurant au rez-de-chaussée qui était véritablement le restaurant d'apparat où vous vous attendiez à, il fallait dépenser une très grosse fortune. Et si vous montiez à l'étage, vous aviez une version un peu simplifiée de ce restaurant qui serait un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui une annexe ou une espèce de bistrot gastronomique. Où allaient des gens de conditions plus modestes pour manger des plats plus modestes, pour des prix plus modestes, dans un décor plus modeste.
Tortoni, Frascati et bien d'autres transalpins ont réussi dans la restauration parisienne. François-Régis Gaudry.
C'était de vrais Italiens, de vrais entrepreneurs. Alors, le boulevard des Italiens ne s'appelle pas le boulevard des Italiens à cause de ses entrepreneurs, mais à cause du théâtre des Italiens qui s'est installé à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'immigrés italiens qui, dans la profession de restaurateur, ont été assez illustres. À commencer par peut-être le pionnier d'entre tous, qui est Francesco Procopio, précisément, le fondateur du Procop en 1686. Qui était cet Italien qui a proposé aux Français une spécialité qui était déjà connue en Italie et qui était le café, la boisson en provenance d'Amérique latine. Et puis sur les grands boulevards, vous aviez effectivement un certain nombre de restaurants d'obédience transalpine, à commencer par Frascati, qui a eu un établissement Palais Royal, mais qui s'est ensuite installé rue Montmartre, et qui était à leur coup une espèce de gelateria, on pourrait dire, c'est-à-dire vraiment un restaurant de glace, un café élégant qui faisait à la fois office de salle de bal, de glacier et de salle de jeu. Et puis Tortoni, ce fameux restaurant à l'angle du boulevard des Italiens et de la rue Lafitte, qui était également un Italien.
Comment les goûtez-vous, les cabinets particuliers du restaurant riche? Guy de Maupassant.
On avait apporté le rôti, des perdreaux flanqués de caille, puis des petits pois, puis une terrine de foie gras, accompagnée d'une salade aux feuilles dentelées emplissant comme une mousse verte un grand saladier en forme de cuvette. Ils avaient mangé de tout cela sans y goûter, sans s'en douter, uniquement préoccupés de ce qu'ils disaient, plongés dans un bain d'amour. Guy de Maupassant, Bel Ami, 1885.
Brève et micro-ondes. Mémoire du restaurant de François-Régis Gaudry chez Aubanel, de Barbé d'Orvilly, Les Diaboliques et Mémoranda à la bibliothèque de la Pléiade, Petit bréviaire de la gourmandise de Laurent Taillade aux éditions Mille et Une Nuits, À table au XIXe siècle, musée d'Orsay, Flammarion, de Charles Moncelet, La cuisinière poétique, Le promeneur qu'est Voltaire, et vous pouvez nous écrire à deux bouches à oreille à radiofrance.com ou bien au 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris CEDEX 16. De bouche à oreille, par René Elkaïm Bollinger. Aujourd'hui, mémoire de restaurant, troisième temps, les grands boulevards, avec François-Régis Gaudry, texte lu par Frédéric Cantrel, coordination Anne de Biran, mixage Simone Ronger, réalisation Pascal Rayet. de bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire. Aujourd'hui, histoire du restaurant, quatrième temps, des bouillons au bistrot.
Nous recommandons à notre clientèle une dorade royale au four sauce vierge à 12 euros, un sauté de lapin à l'estragon au tagliatelle à 10,40 euros. Ça, c'est les recommandations des plats du jour, n'est-ce pas? Et le menu du jour que nous établissons, aujourd'hui, nous aurons un saucisson à l'ail ou alors une salade de tomates pour 2 euros, un rôti de porc pomme normande ou bien une saumonette sauce poivre vert à 9,60 euros, une mousse au chocolat ou une coupe vanille chocolat, une glace, à 2,60 euros, et enfin la boisson qui est une demi de vin rouge de table français ou une demi badois ou une demi évian pour 2,80 euros.
Nous sommes au Bouillot Chartier, un des rares héritiers des bouillons du XVIIIe et du XIXe siècle à Paris. Dans la rumeur de midi et les effluves d'andouillettes grillées, menu à prix fixe. On verra que dans la gamme des restaurants populaires, dont Eugène Briffaut parle avec tant de dédain au XIXe siècle, le bouillon occupe une place particulière. Nous ne sommes plus chez Riche ou chez Hardy avec les lions grignotant leurs fricandeaux. Nous voilà dans les restaurants populaires à Paris et sur les barrières. Pour ce quatrième temps de l'histoire des restaurants, on va soulever le couvercle de la marmite perpétuelle, considérer les arlequins ou les bijoux, voyager dans la géographie alimentaire d'un Paris misérable et somptueux. Le peuple déjeune, écrit Edmond de Goncourt. La bourgeoisie dîne, la noblesse soupait. L'estomac se lève plus ou moins tard chez l'homme, selon sa distinction. Le peuple déjeunera donc aux pieds humides où officie la mère Bidoche, ou encore chez l'honnête Flicoteau, avec Balzac se régalant de pruneaux cuits dans les illusions perdues. Au sommaire de bouche à oreille, juste un mot, bistrot. Reportage au Bouillon Chartier avec Daniel Lemaire à Paris. Entretien avec François-Régis Gaudry, auteur de Mémoires de restaurant. Comment le goûtez-vous, le menu du dimanche, brève et micro-ondes. Juste un mot, bistrot.
Le bistrot, c'est un mot très très rarement usité. Le bistrot... D'abord, ses origines sont assez inconnues. Il y a quatre hypothèses. On dit que ça vient soit du mot russe bistrot avec un Y qui signifierait vite, faisant allusion à ces Russes qui sont venus en France au début du 19e siècle et qui disaient servez-moi rapidement. Donc ça peut venir de là. Il y a aussi une autre origine qui est le mot bistrot avec AUD à la fin qui serait là au contraire d'une origine poitevine et qui désignerait un petit domestique qui est l'aide du marchand de vin ou du cabaretier. Il y a aussi un mot canadien du Canada francophone qui est bistrouille, qui éventuellement aurait pu expliquer le mot bistrot et qui signifiait là un cabaret. Et puis enfin, bastringue, qui signifie également cabaret. Ça reste assez mystérieux, toujours est-il que le mot bistrot est vraiment apparu et tombé un peu dans toutes les habitudes des écrivains gastronomiques à partir de 1960-50, ce qui est quand même assez récent.
Nous diviserons les restaurants de Paris en trois classes. Au-delà, ce n'est plus qu'un amas confus. Plus bas, les ténèbres. Plus bas encore, le chaos et de hideux cloaques. Les restaurants de premier ordre ont un signe qui les fait tout de suite reconnaître. Leur dignité, c'est la cherté du prix. Cette singulière aristocratie est celle qui, dans presque toute la hiérarchie commerciale, est un tarif de noblesse et d'élévation. Chez les restaurateurs, ce trait est plus saillant que dans les autres professions. Eugène Briffaut.
« trois classes de restaurants, remarque Eugène Briffaut. Une hiérarchie un peu rigide, certes, mais en tout cas, il y eut un accroissement certain des restaurants au cours du 19e siècle, et tous très différents. François-Régis Gaudry.
Il y a toute une série de catégories de restaurants qui apparaissent pour nourrir une catégorie de population qui est apparue dans la première moitié du 19e siècle avec la révolution industrielle. C'est vrai que Paris a vécu une vraie inflation démographique et la révolution industrielle a attiré une importante main-d'œuvre dans les villes. Ça a donné des idées à des restaurateurs précisément pour nourrir toutes ces petites bouches. Alors, il y a la cuisine de rue qui existe toujours.
Il y a la gamelle d'abord.
Il y a la gamelle. C'est vrai que la plupart du temps, ce que l'on faisait, c'est que dans sa gamelle en aluminium, on amenait son casse-croûte en fait. Donc on se dispensait de manger à l'époque où il n'y avait précisément pas d'établissement prévu pour manger pas cher. Il y avait la cuisine de rue, certains stands aux abords des halles qui se trimbalaient de rue en rue également pour proposer des choses sur le pouce. Et puis est apparue toute une génération spontanée d'établissements avec des standings un petit peu différents, avec une hiérarchie selon les prix, selon les conforts, selon la qualité de la nourriture aussi, comme ça, qui est apparue au début du 19e siècle. Ce qui a peut-être vraiment au pied de la pyramide, c'est-à-dire dans ce qu'on peut trouver de plus populaire, c'est ce qu'on a appelé les bijoutières. Les bijoutières étaient ces femmes artisans qui travaillaient la plupart du temps dans les marchés parisiens et surtout aux Halles, qui étaient surnommées ainsi parce qu'elles avaient pour mission de recycler les reliefs des grands restaurants, c'est-à-dire les restes des grands restaurants et d'ailleurs des grandes maisons aussi, tous les dîners qui se faisaient dans les grands appartements parisiens. Il y avait comme ça toute une série de trafic sous le manteau, de chefs qui revendaient les assiettes qui n'étaient pas terminées à la table des grands restaurants. Et ces restes-là avaient le surnom de bijoux, un peu. Et les bijoutières étaient précisément ces femmes qui recyclaient ces bijoux et qui les mettaient dans des grandes marmites, alors où se côtoyaient, pour le coup, tout type de restes, à la fois des morceaux très nobles. C'était un peu la loterie quand on mangeait chez une bijoutière. On pouvait tomber sur un morceau très noble qui datait de la veille, comme, pour le coup, un morceau de viande avariée qui pouvait dater de 15 jours. C'était un peu la loterie, et ce qui explique que ce type d'établissement avait un surnom, finalement, que je trouve plein de bon sens. On appelait ce genre d'établissement le hasard de la fourchette, en fait. Selon qu'on avait de la chance ou pas, on arrivait à peu près à sustenter correctement.
Et les arlequins,
alors ? Et les arlequins, c'est un peu un synonyme de bijoux. L'arlequin désignant, en fait, cette espèce de puzzle de bijoux, cette espèce de macédoine de pièces de viande, de légumes et autres, qu'on mettait en commun dans un grand récipient.
Au-delà de la cuisine bourgeoise, gît la gargote. À certaines heures de la journée, la gargote, que peuplent le déjeuner et le dîner des ouvriers, présente un coup d'œil grouillant comme celui d'une masse d'insectes. Si la table n'est pas nue, elle est couverte d'une nappe outrageusement tachée. Le matin, on remplit les écuelles et l'on sert un plat de ragoût. À 3 heures, on mange le bœuf bouilli et les légumes. Le vin se paye à part. On apporte son pain. Dans quelques-uns de ces endroits, on ne peut comparer la basse nature des mets qu'à la voracité avec laquelle ils sont engloutis. Eugène Briffaut.
Gargote, de l'ancien français gargate, gorge. La gargote, c'est le fond du fond. Et l'une de ces gargotes, à la Fontaine des Innocents, est surnommée les pieds humides. François-Régis Gaudry.
Alors, ça veut quand même dire ce que ça veut dire, hein. On n'est plus dans des appellations prestigieuses, mais dans des noms de restaurants qui sont assez révélateurs des conditions dans lesquelles on mangeait. J'ai retrouvé notamment une gravure assez intéressante d'un restaurant à ciel ouvert au pied de la Fontaine des Innocents, tenu par la mère Bidoche, c'est précisément le restaurant des Pieds Humides. Alors là, on oublie la table individuelle, hein. On est à nouveau dans un principe de table d'hôte. Vous avez des gens de petites conditions qui y mangent, bien entendu sans nappe, des petites portions dans leurs assiettes.
Il y a même des tables creusées en forme d'assiette.
Oui, il y a eu des tables creusées. C'est une habitude qui avait déjà cours à l'époque des maisons d'hôtes et des tables d'hôtes dans les auberges et les tavernes. Et on retrouvait encore ce principe-là dans certains restaurants du début du 19e. Des pieds humides, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. En l'occurrence, on est au pied de la Fontaine des Innocents. Ça devait pas être très sec et on ne devait pas être très bien chaussé. Voilà, donc le nom était finalement assez éloquent. Et on y voit d'ailleurs une espèce de bazar comme ça, de gens qui se penchent sur les bancs. Tout était assez rudimentaire et assez spartiate.
Quant à ces endroits où la soupe était servie dans un trou creusé dans la table et où le bouillon était distribué par le piston d'une seringue à cheval, ce sont des souvenirs aussi historiques que ceux de la mère Camus. Eugène Briffaut.
Alors, il y avait toutes ces gargotes, hein, au fond, on peut utiliser le mot, dans le centre de Paris, mais il y avait d'autres quartiers, géographiquement, ça s'étendait un petit peu partout, et donc il y avait ça sur dans les faubourgs.
Absolument.
Et dans les banlieues,
oui.
Il y avait, vous parlez du petit Ramponneau, par exemple.
Il y a effectivement le petit Ramponneau, qui est un des exemples de ces restaurants qu'on trouve à la frontière de Paris. Il faut savoir que tous ces établissements populaires se sont situés aux endroits stratégiques où parallèlement se développait une activité industrielle ou d'artisanat intensif. On retrouve d'ailleurs tout ce passé industriel, souvent réhabilité aujourd'hui, d'ateliers sous verrières, etc., de serrurerie et de toute une série de corps de métier. Et là où il y avait de la main-d'œuvre, des entrepreneurs avaient précisément l'idée d'installer des restaurants. Des entrepreneurs qui n'étaient d'ailleurs pas toujours des patrons assoiffés d'argent. Et en général, quand on ouvrait un restaurant modeste, il y avait souvent derrière aussi cette vocation un peu philanthropique.
Il y avait la Grande Californie.
Il y avait notamment la Grande Californie, avec un gars, pour le coup, qui est devenu assez populaire, qui a eu tous les honneurs quand il a été enterré à sa mort. La Grande Californie était un établissement ouvert sur l'avenue du Maine, ouvert en 1843. Le personnage en question s'appelait le Père Cadet. C'était un vaste hangar où les tables et les bancs étaient fixés au sol. Il faut imaginer vraiment une espèce de restaurant-usine. Le nombre de couverts était absolument démesuré. Et ce fameux Père Cadet avait pour habitude, avant de faire payer à sa clientèle habituelle son repas, avait pour habitude d'offrir 300 soupes et 300 portions pour les gens les plus indigents. Et beaucoup lui en ont su gré, et le Père Cadet a donc monté ce restaurant avec toute une usine, en fait, où on avait sa propre manufacture de tabac, avec des petits métiers à l'intérieur de ce restaurant, et de femmes qui récupéraient les mégots, qui les écrasaient sur des briques, qui en faisaient des cigarettes, qui les revendaient. Il y avait des personnes qui étaient préposées plutôt au service du café. C'était une espèce de vaste entreprise où tout le petit peuple du côté de Montparnasse venait s'alimenter.
Quel est ce pauvre diable qui, dans ses doigts transis, souffle avec désespoir et rôde en grelottant sous un mince habit noir? J'ai vu chez Flicoteaux un piteux personnage. Chanson populaire. Peu de restaurants parisiens offrent un aussi beau spectacle. Là, vous ne trouvez que jeunesse et foi, que misère gaiement supportée. Quoique cependant, les visages ardents et graves, sombres et inquiets, n'y manquent pas. Aussi, remarque-t-on ceux qui viennent bien mis. Il s'est, dit-on, formé quelques amitiés entre plusieurs habitués devenus célèbres. Balzac, Les Illusions perdues.
Et Flicoteaux, que Balzac évoque dans Les Illusions perdues, était un de ces restaurants qui accueillait
François-Régis Gaudry.
Cette autre catégorie de clientèle populaire qui n'était pas les petits ouvriers, mais les étudiants qui n'avaient pas tellement les moyens de se sustenter autrement qu'en allant chez Flicoteaux, qui servait pour des prix assez miraculeux, toute une série de plats. Alors c'était pas très compliqué, pas très sophistiqué.
C'est une bonne cuisine familiale.
Bonne cuisine familiale, souvent assez simple, à base de pommes de terre, de morceaux de viande et de poisson. Mais en même temps, Balzac salue en Flicoteaux véritablement un père nourricier, avec un texte pour le coup, alors plein de verve. Tous les détails y sont, hein, y compris l'architecture du lieu, deux salles disposées en équerre, longues, étroites et basses, éclairées l'une sur la place de la Sorbonne, l'autre sur la rue Neuve de Richelieu. toutes démeublées de tables venues de quelques réfectoires abbatiales, leur longueur a quelque chose de monastique, et les couverts, ils sont préparés avec les serviettes des abonnés, passés dans des coulants de moirés métalliques numérotés. Et il dit qu'on y mange notamment des côtelettes de mouton, des filets de bœuf, des pommes de terre. Et ce qui est surtout intéressant, c'est la façon dont il conclut cette description assez précise de chez Flicoteaux, en disant « Aussi remarque-t-on ceux qui viennent bien mis, chacun sait que cette tenue extraordinaire signifie, maîtresse attendue, partie de spectacle ou visite dans les sphères supérieures, il s'est, dit-on, formé quelques amitiés entre plusieurs habitués, devenus célèbres. » Chez Flicoteaux, effectivement, a pour le coup accueilli des gens qui ont fait leurs études à la Sorbonne et qui sont devenus, par la suite...
Il y avait un grand brassage pour 25 sous à peu près.
Oui, ce qui ne représentait pas grand-chose à l'époque, puisque déjà Eugène Briffaut, qui a donc écrit Paris à table, disait que les restaurants, les gargotes à 40 sous étaient déjà des établissements pas chers du tout. Donc chez Flicoteaux avait la performance de faire encore moins cher.
Et on disait l'honnête Flicoteaux.
L'honnête Flicoteaux, oui. Là encore, il y avait une vraie mission nourricière au-delà de cette volonté entrepreneuriale de gagner de l'argent.
Jadis de celle Attique, au clair pays des roses, on avivait un discours fade. Pour faire un plat divin du mets le plus maussade, je me sers du sel Cérébros. Alexandre Duval.
Ce fameux sel Attique, une réclame, se trouvait sur un calendrier publicitaire au Bouillon du Val, dont la devise était « Beaucoup de bris pour rien ». François-Régis Caudry.
Et c'est comme ça qu'au milieu du 19e siècle, effectivement, est réapparue cette fameuse expression qu'on avait oubliée depuis le milieu du 18e, et remis au goût du jour par un certain Baptiste Adolphe Duval, alors assez malin, suffisamment malin en tout cas, pour avoir l'idée de remettre au goût du jour ces recettes de bouillon restaurant en se disant ben pourquoi ne pas les appliquer cette fois au petit peuple des Halles en lui servant des plats pas très chers, alors des bouillons, en l'occurrence du bouillon de pot-au-feu, et plein d'autres plats qui pour le coup n'étaient pas très chers. Baptiste Adolphe Duval était boucher de son état, il avait donc la possibilité de se fournir en viande pour des prix pas très élevés. Il avait son propre abattoir, ce qui lui permettait, encore une fois, de débiter de la viande en grande quantité et surtout d'achalander tous ses restaurants, parce que ça a commencé rue de la Monnaie par un seul établissement. Le premier a ouvert en 1854. Et peu à peu, la formule a tellement pris, a tellement marché que Duval a ouvert, à peu près dans tous les lieux stratégiques de Paris, des établissements, des bouillons Duval. La seule trace qu'on retrouve d'un bouillon Duval, c'est l'Académie de billard qui est rue de Clichy, à côté de la place Clichy, qui est cette grande salle dont on retrouve encore le décor de l'époque. Sinon, plus un bouillon de... Tous les bouillons Duval ont été rasés de la carte. Le bouillon Duval est devenu, avec le fils de Baptiste Adolphe Duval, Alexandre, un véritable empire commercial.
Godefroy de Bouillon,
Godefroy de Bouillon, ouais. Le premier vrai empire de la restauration française. Avec pas moins de 40 succursales quand même, ce qui est considérable. Aux quatre coins de Paris, on en retrouve boulevard Saint-Denis, à la Madeleine, place du Havre, boulevard des Italiens, rue de Rome, rue de Clichy, boulevard Poissonnière. Partout dans Paris intramuros, on pouvait avoir affaire à cette espèce de, j'aurais presque envie de dire, de McDonald's avant l'heure, à ceci près que on y mangeait sainement. Et que Alexandre Duval faisait très attention à la qualité de ce qu'il y servait.
Paris, au Bouillon Chartier, avec Daniel Lemaire, directeur du restaurant.
Tous les lundis, nous faisons le pot-au-feu, ses légumes traditionnels, le bouillon, le vermicelle, enfin, toute la recette du siècle dernier, enfin, non, du 19e, maintenant, pas pris l'habitude encore.
Alors, la maison date de quand, le bouillon Chartier ?
1896, ouvert par Louis-Isidore Chartier, et dans la tradition du bouillon, qui était donc le symbole d'une restauration pas chère, héritée de la fameuse marmite perpétuelle, hein, où on prenait une tasse de bouillon. Mais on avait des prédécesseurs, c'était les bouillons Duval. Et celui-ci où nous sommes actuellement est le premier ouvert sur environ une quinzaine qu'il y eut et le dernier restant en l'état et aux monuments historiques. Ça en oublie la fonction.
Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de la marmite perpétuelle. Vous connaissez ça, alors, vous ?
Oui, enfin, j'ai appris ça. Alors, la marmite perpétuelle, c'était une petite échoppe dans laquelle il y avait une grosse marmite. Et les dernières, c'est à la fin du 18e, début du 19e. Et on faisait cuire là-dedans du veau, du poulet, du bœuf, naturellement, des légumes qui allaient bien. Et on avait le choix de prendre juste une tasse de bouillon. À ce moment-là, le restaurateur, qui n'était pas restaurateur, mettait une tasse d'eau. Si on enlevait un poulet, ben on remettait un poulet à cuire et ça tournait sur 24 heures.
Ici, c'est bien parce qu'ils ont gardé la tradition d'écrire la note sur la nappe en papier. Il y a toujours des nappes en papier. Et on peut écrire dessus.
Chez nous, oui, ou même dessiner. Quelquefois, les clients nous laissent des dessins, des choses comme ça. Mais tous les habitués qui font eux-mêmes leur addition, sortent leurs sous, ils s'en vont, et puis voilà. Autrement, les serveurs prennent leurs commandes sur la nappe et font l'addition également sur la nappe.
Est-ce qu'il y a des serveurs plus loin, là-bas, qui ont le grand tablier blond
C'est la tenue traditionnelle également héritée du 19e siècle, que nous n'avons jamais perdue, qui revient un peu partout maintenant. Alors le gilet noir s'appelle un rondin, et le tablier blanc, naturellement, qui tombe jusqu'aux chevilles. Et le rondin, pour la raison que lorsqu'on suspend ce vêtement, sa forme reste circulaire. C'est ce qui lui a donné le surnom. Et la serviette sur le bras droit, oui. Le lito.
La société tout entière vient passer sous les regards du dîneur, qui la contemple et l'étudie dans ce qu'elle a de plus expansif. On ne peut pas même essayer de donner l'idée de ce tableau sans cesse mouvant. Ce n'est pas la société habillée des salons, le monde affairé des rues, les poses et les prétentions de la promenade, les préoccupations des salles de spectacle. C'est une multitude aux prises avec des sensations qui l'entraînent malgré elle. Ordinairement, les débuts sont réservés et contenus. On ne parle pas, on observe, soi et les autres. Mais bientôt, l'effusion et l'abandon naissent, pointent et se révèlent. C'est une confession générale et des plus divertissantes. Eugène Briffaut, Paris à table.
Le bouillon Chartier, au détour d'une allée, on aperçoit les casiers à serviettes. Daniel Lemaire.
Il y a 600 petits casiers, petits tiroirs comme ça, disséminés dans toute la maison. Et les habitués prenaient une serviette le lundi matin, lundi midi, gardaient leur serviette, chaque tiroir ayant un numéro, jusqu'au vendredi midi, où on ramassait les serviettes et ainsi de suite, pour 20 centimes la semaine.
Et ça fait combien de temps, vous, que vous êtes dans ce restaurant ?
Moi, en réalité, j'y suis né, alors, voyez-vous. Mais je le dirige depuis une trentaine d'années.
Est-ce que vous avez vu la clientèle changer ? Est-ce que c'est une clientèle qui vient du quartier ou bien de plus loin encore ?
Non, ça a changé profondément. Dans 30-40 ans auparavant, on avait essentiellement de la clientèle du quartier, de l'habitué qui travaillait dans la zone, pas mal de célibataires qui ne faisaient pas la cuisine le soir. On travaillait peu le soir. Mais maintenant, on est devenu beaucoup plus cosmopolite. On a des clients venant du monde entier.
Mais est-ce qu'il y a encore des familles qui viennent manger chez vous ? Vous me parliez du repas dominical, par exemple, en famille. Vous avez connu ça, vous ?
Oui, et ça existe encore. Mais alors, vraiment à petite dose, hein, faut bien l'avouer. Mais encore quelques habitués qui viennent le dimanche avec leurs épouses et leurs enfants. Ce qui est assez traditionnel le dimanche dans ces repas tout aussi traditionnels, c'est le fameux gigot. Gigot dominical, qui marche assez bien.
Ce qui augmente encore le charme de ce spectacle, c'est que la série des figures est interminable et se renouvelle incessamment. Il y a des groupes burlesques, il y a des caricatures isolées, de tout âge, de toute figure et de toutes les nuances. Les caractères de la scène n'ont rien à comparer à cette variété. Eugène Briffaut, Paris à table.
Café, bistrot, troquet, brasserie, plusieurs noms pour désigner les lieux où l'on mange à Paris. François-Régis Goudry.
Il y a toute une série comme ça de familles de lieux qui se sont créées à la suite de cette volonté de nourrir pour pas cher. Et quand vous prenez la brasserie par exemple, on est typiquement dans ce genre d'établissement assez peu reluisant à l'époque. Au départ, un lieu dédié à la consommation de bière, donc plutôt avec une réputation assez sulfureuse puisque la bière est considérée à l'époque comme une boisson épaisse. Et peu à peu, la brasserie est devenue un établissement où l'on a mangé les plats qui allaient avec la bière, la choucroute, les saucisses de Francfort et autres. Et ensuite, la brasserie s'est un peu embourgeoisée, si j'ose dire, qu'à partir du début du XXe siècle, où elle a un peu servi de vitrine aux grands décorateurs de l'art nouveau, puis ensuite dans les années 20 de l'art déco. Là, c'est devenu un peu des showrooms, j'aurais presque envie de dire, de décorateurs. Mais c'est vrai que la vocation originelle de la brasserie, pour le coup, c'était de nourrir des gens qui avaient peu de moyens.
Comment le goûtez-vous, le menu du dimanche ?
Menu du dimanche. Déjeuner, barbeau à la vinaigrette, œufs d'effet libre à la belle laure, veau en blanquette, cuisse de dindonneau grillée sur purée de navet. Dîner. Potage à la soubise, matelote, côte de bœuf à la parmentière au lait, chapon rôti, carotte à la vichy, beignet de pêche au kirsch. Plat doux et pâtisserie de ménage, tarte aux mirabelles, pêche à la montreuil, petit nid georgette. La cuisine des familles.
Rêve et micro-ondes. Histoire du restaurant de François-Régis Goudry chez Aubanel, de Christian Boudan, Paris Cuisine aux éditions Jean-Paul Rocher, Manière de table, modèle de mœurs, 17e siècle et 20e siècle de Claudine Marinco aux éditions de l'École Normale Supérieure de Cachan, Le mangeur du 19e siècle de Jean-Paul Aron aux éditions Payot, Paris à table d'Eugène Briffaut au Mercure de France. Bouche à oreille par René Caïm Bollinger. Aujourd'hui, histoire du restaurant 4e temps, des bouillons au bistrot avec Daniel Lemaire, François-Régis Goudry, texte lu par Frédéric Cantrel, coordination Anne de Biran, mixage Michel Mestre, réalisation Pascal Rayet.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture le 18 mars et le 1er avril 2007.